France Info.
Perturbés nous accompagnent quand même encore jusqu'au 15 février au moins. Ensuite, peut-être que l'air froid prendra le dessus.
On surveillera ça évidemment avec vous. Merci beaucoup Christine Peña. Tout à l'heure dans 10 minutes après un premier journal à 5h. Bienvenue. Et à la une de ce 3 février, le budget de l'État définitivement adopté après des mois de tractations et l'utilisation à 3 reprises du 49.3. Mais l'opposition ne s'avoue pas vaincue, vous allez l'entendre. À la une aussi, l'indignation des syndicats de policiers après plusieurs refus d'obtempérer qui ont fait des blessés en 24 heures. L'affaire Epstein qui éclabousse encore un peu plus les monarchies européennes. Vous entendrez des commerçants très satisfaits des soldes qui se terminent aujourd'hui. Et puis le retour de la Coupe de France de foot. Marseille retrouve son public au Vélodrome après une semaine cauchemar. C'est un feuilleton qui vous a sans doute lassé et qui a épuisé le personnel politique. Mais cette fois, c'est donc bien terminé. Le budget 2026 de l'État a été définitivement adopté hier, car Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a échappé avec son gouvernement à 2 motions de censure déposées par une partie de la gauche et le RN après le déclenchement du 49.3. Alors cela veut dire que les grandes entreprises seront bien surtaxées, que le barème de l'impôt sur le revenu sera bien gelé cette année, ou encore que les APL, les aides au logement, sont supprimées pour les étudiants étrangers hors UE. Tout cela est donc gravé dans le marbre désormais. C'est la fin d'une très longue séquence. Elia Bergel, une défaite donc pour les opposants du gouvernement, mais ses députés promettent de rester mobilisés sur les combats politiques qui arrivent.
Oui, pas de temps mort, la vie parlementaire peut enfin reprendre son cours normal, se félicite le socialiste Pierrick Courbon.
Avec des séances extrêmement riches, avec des textes importants qui ont été annoncés, le retour en deuxième lecture des textes liés à la fin de vie, évidemment.
Un texte que le député RN Philippe Ballard attend de pied ferme.
On est un groupe qui est farouchement opposé à ce texte, donc oui, on va continuer à se battre dans l'intérêt de la France et des Français.
Les élus de l'opposition promettent également qu'ils seront hyper vigilants concernant la loi sur l'agriculture du gouvernement. Les secteurs en crise attendent le texte avec impatience, mais beaucoup de députés assument de mettre désormais le cap sur les élections municipales.
Si vous voulez que ça change dans ce pays, vous avez une première étape, c'est les 15 et les 22 mars prochains.
L'insoumis Aurélien Lecoq.
Et à ce moment-là, il faut la mobilisation générale pour assumer la rupture avec la Macronie et ses complices. Jean-Luc Mélenchon a exprimé les choses très clairement en disant que les élections municipales étaient le galop d'essai de l'élection présidentielle.
Les insoumis déroulent leur stratégie habituelle avant une élection présidentielle, se lancer avant les autres, vite et fort, pour tenter d'écraser la concurrence à gauche.
Merci beaucoup à Elia Bergel du service politique de France Info. Les refus d'obtempérer ont augmenté de 11% l'an dernier et la journée de dimanche dernier. En est l'illustration. 3 refus d'obtempérer en seulement 24 heures qui ont blessé des policiers, 9 selon leur syndicat. À Argenteuil, une policière a été traînée par une voiture qu'elle contrôlait. À Quincy Voisin, en Seine-et-Marne, ce sont des policiers de la BAC qui ont été percutés par un véhicule. Et puis à Nantes, des agents ont été blessés par une voiture qui leur a foncé dessus. Les syndicats disent donc leur inquiétude et ils réclament plus de fermeté. Linda Kebab est la secrétaire nationale d'unité SGP Police Force Ouvrière.
En fait, il faut systématiquement poursuivre pour ce que sont les faits. Et quand vous foncez délibérément avec une voiture dans une personne, que vous l'embarquez avec vous en la grippant par la fenêtre, que vous foncez dans une voiture de police, ça n'est ni plus ni moins qu'une tentative d'homicide. Sur le terrain, on nous le dit clairement lors des auditions. Les auteurs disent « mais de toute façon, je sais que je ne risque pas grand-chose et que je préfère prendre le risque de percuter un policier et de faire peut-être quelques semaines ou quelques mois de prison plutôt que de me voir retirer mon permis parce que j'aurais bu, par exemple. » Et que donc, du coup, la fuite coûte que coûte, quitte à ce que ce soit le prix de la vie d'un policier qui soit payé. On a quand même parfois le sentiment que la perte d'un permis de conduire pèse plus lourd que de tuer un policier. Donc, la sanction, elle a aussi une vertu pédagogique.
Linda Kebab du syndicat policier Unité SGP Police Force Ouvrière. L'affaire était déjà énorme aux États-Unis. Le scandale continue de s'étendre au reste du monde. L'affaire Epstein, du nom du financier et délinquant sexuel américain mort en prison en 2019. La justice américaine a dévoilé ces derniers jours des millions de documents dans lesquels on retrouve, entre autres, des membres de familles royales européennes. Le prince Andrew, il avait déjà été mis en cause dans cette affaire. Et de nouvelles photos sèment le trouble en Angleterre. Le prince Laurent de Belgique aussi y figure, même s'il nie tout lien avec Jeffrey Epstein. Et puis, la future reine de Norvège, Mette Marit, des mails révélés ces derniers jours, Otilia Ferré, choque tout son pays.
Au moins 1000, c'est le nombre de fois où apparaît le nom de Mette Marit, la princesse de Norvège, dans la dernière publication des dossiers Epstein. Le journal norvégien Verdenskrong a fait le décompte. Ces dossiers révèlent particulièrement leurs échanges par mail et texto entre 2011 et 2014. Jeffrey Epstein avait alors déjà été condamné, en 2008, à un peu plus d'un an de prison pour recours à des prostituées mineures. Et la future reine le savait très bien. « Ça ne fait pas bonne impression », lui avait-elle écrit en terminant son message par un smiley. En 2012, alors que Jeffrey Epstein dit être à Paris, je cite, en quête d'une épouse, elle lui répond que la capitale française est bien pour l'adultère, mais que les Scandinaves font de meilleures femmes. L'année suivante, elle a passé 4 jours au domicile du pédocriminel en Floride. Aujourd'hui, ces révélations entachent bien évidemment la réputation de la princesse qui a déclaré avoir commis une erreur de jugement. Elle a ajouté, entre guillemets, je regrette profondément d'avoir eu le moindre contact avec Epstein. C'est tout simplement embarrassant. Mette Marit pourra-t-elle être reine après ça? C'est ce que se demande à l'heure actuelle le journal de référence Aftenposten.
Ottilia Ferré en Scandinavie pour France Info. En France, parmi les personnes citées dans ces documents révélés par la justice américaine, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, et sa fille Caroline, qui vient de démissionner du syndicat des producteurs indépendants après ces révélations. Elle et son père affirment n'avoir jamais eu connaissance des agissements répréhensibles de Jeffrey Epstein. France Info, il est 5h06. Attention, plus qu'une seule journée pour profiter des rabais. C'est le dernier jour des soldes d'hiver. Et quel est le bilan? Eh bien, à Paris, en tout cas, en Ile-de-France, la plupart des commerçants sont ravis. Conclusion d'une enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Le chiffre d'affaires en hausse est en hausse pour les trois quarts des boutiques et magasins sondés, Sophie Auvigne.
Dans sa boutique de linge de maison, pas loin des commerces de la rue de Rennes, Pierre a le sourire.
Très très bonne solde dans ce magasin, beaucoup beaucoup de clients, vraiment ravi.
Ça fait 3 mois depuis le Black Friday, la boutique ne désemplit pas.
Cette année en particulier, très grosse progression, plus 23%.
Vous avez déjà vu ça?
Rarement.
Ça vous a un peu surpris malgré tout?
Une si forte progression, oui, mais agréablement surpris.
Aline aussi a constaté un afflux de clients dans sa boutique de chaussures. À peine les ventes privées commençaient en décembre et ça n'est pas fini.
Nous perso, ça va. Il y a du monde, on a quand même des gens qui viennent, même jusqu'à la dernière minute, c'est le dernier jour. Donc ils essayent d'avoir la paire pour finir en fait la fin de saison.
Les stocks ont considérablement baissé, objectif atteint. Et donc, comme Pierre ou comme Aline, 76% des commerçants interrogés se disent satisfaits des soldes, 6% de professionnels supplémentaires comparés à l'hiver dernier. Stéphane, qui vend des vêtements lui aussi dans le 6e arrondissement, a une explication.
Le mois de décembre a été assez clément au niveau de la température. Pour le mois de janvier, il fait très froid avec une semaine de neige. Donc les soldes ont coïncidé avec l'envie d'acheter des vrais vêtements d'hiver. Le froid a aidé les soldes.
Et cette année, pas de manifestation ni de blocage au moment des fêtes.
France Info, reportage signé Sophie Auvigne à Paris. L'Olympique de Marseille retrouve son public ce soir après son cauchemar de la semaine dernière. Rappelez-vous de cette élimination en Ligue des Champions à Lisbonne avec un but à la dernière minute inscrit par le goal du Benfica. Souvenez-vous aussi de la défaite sur la pelouse du Paris FC. Alors ce soir, c'est de la Coupe de France au stade Vélodrome. 8e de finale, c'est contre Rennes à 21h10 à suivre sur France Info. Pour tenter de calmer les esprits, il y a même eu une réunion dans la soirée d'hier entre le staff et une délégation de supporters. La question, Jean-Pierre Blimeau, reste désormais de savoir quel accueil sera réservé aux Marseillais, par les Marseillais à leur équipe.
Devant la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, Thierry attend de voir passer ses joueurs préférés, qu'il a plutôt envie de soutenir, même s'il attend une réaction ce soir.
C'est obligatoire, obligatoire la réaction, sinon on va partir encore dans des trucs de fou. Comme d'habitude, on va les encourager et puis après on attendra le coup de sifflet pour gronder ou pas.
L'entraîneur Roberto De Zerbi, très offensif mais aussi très ferme en conférence de presse, espère que le public du Vélodrome sera derrière son équipe.
Sur la qualité des personnes que j'ai dans le vestiaire, je mettrai ma main au feu. Alors c'est évident qu'on a des difficultés. On ne peut pas se cacher, mais on a besoin du Vélodrome.
Car la Coupe de France, qui se joue désormais sans le PSG éliminé, pourrait être l'occasion de sauver la saison des Marseillais, explique Bernard devant le Vélodrome.
On peut rentrer dans la crise, là. Le championnat, on n'y compte pas. Alors, il faut qu'on joue sur la Coupe de France à fond.
Est-ce qu'il faut quand même les encourager, là?
Oui, mais en condition, ils mouillent le maillot. Sinon, on va faire la gueule. Hein.
Hier soir, les dirigeants, le staff et les joueurs de l'OM se sont réunis avec les représentants des groupes de supporters. Ces derniers voulaient être entendus. Ils ont prévu d'encourager leur équipe.
Merci beaucoup Jean-Pierre Blimeau. Et on suivra aussi Reims-Le Mans dans ses 8e de finale de la Coupe de France. C'est à 20h30. Ou encore Lorient-Paris FC. Cette fois, ce sera demain. Et puis, c'est une institution britannique. Des objets de la série Doctor Who vont être mis aux enchères à partir d'aujourd'hui en ligne. Des costumes, des accessoires, tout cela au profit d'associations pour les enfants dans le besoin. 250 000 livres avaient déjà été récoltés lors d'une précédente vente. C'est une série de science-fiction institution, je le disais Christine, sur un voyageur qui parcourt l'espace-temps. Elle est diffusée sur la BBC depuis 1963. Et elle assume d'ailleurs un petit côté kitsch avec des méchants et des personnages qui sont très 60s, alors qu'on n'est plus vraiment dans les 60s.
Non,
ça ne vous a pas échappé.
Ça m'avait pas échappé.
Il est 5h10 et on voyage dans les nuages.
Ah oui.
Christine Peña avec vous, même si le soleil revient par le sud.
Mais oui, en cours de journée, ce soleil va gagner du terrain, oui, dans le sud. Alors, il va se dégager, ce ciel, du sud-ouest, dès ce matin d'ailleurs, jusqu'à l'Auvergne, et en cours de journée jusqu'en Méditerranée, et jusqu'aux Alpes, où on a encore de la neige ce matin. Au nord, c'est un ciel changeant qui va peu à peu finalement s'installer avec des pluies qui vont devenir intermittentes et de plus en plus espacées. Les températures vont encore s'envoler cet après-midi, mais dans le sud-ouest, on a dépassé les 20 degrés. Alors, vraiment, c'est une pointe à 20 degrés dans le 64 hier après-midi. On sera plutôt autour de 15-16 degrés encore dans le sud-ouest, en Méditerranée aussi, alors qu'il fera jusqu'à 13 degrés à Lyon, 11 à Paris et 9 à Lille.
Et la météo, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Merci beaucoup Christine Peña, 5h11.
France Info, 6h-9h.
Bonjour, c'est Jérôme Chapuis. Je vous retrouve tous les matins dès 6h avec toutes les équipes de France Info, nos chroniqueurs, l'édito politique, le décryptage éco, France Info Monde, nos invités, les enquêtes et reportages de la rédaction, toute l'actu qui vous concerne pour rester informé en toute confiance.
6h-9h, du lundi au jeudi, c'est Jérôme Chapuis sur France Info.
Au programme de France Info d'ici 5h30, le 39-19, le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales confrontées à de plus en plus d'appels malveillants d'hommes masculinistes. Reportage à venir. Nous serons aussi à Grenoble où le maire sortant, l'écologiste Éric Piolle, ne se représente pas. La bataille électorale est déjà féroce, vous allez l'entendre. Mais d'abord ce chiffre édifiant, 600 000 Français sont obligés de vivre chez quelqu'un d'autre.
France Info, 5h-6h. William DeCosta.
C'est ce que dit la Fondation pour le logement, l'ancienne Fondation Abbé Pierre, dans son rapport annuel sur le mal-logement publié aujourd'hui. Elle a décidé donc cette année de mettre en avant ces centaines de milliers de Français qui sont hébergés chez un tiers parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur propre logement. Manuel Domergue est le directeur des études de la Fondation.
C'est la face cachée un peu du mal-logement parce que c'est des personnes qui ne sont pas accueillies par l'État, par les collectivités, c'est la solidarité privée. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une pénurie de logement. Parce que c'est dans les zones tendues, c'est les personnes plutôt défavorisées, qui ont des petits revenus, qui vivent parfois des mois, parfois des années, chez des proches, chez des parents, chez des cousins, chez des amis. Donc heureusement que ça existe, parce que sinon ces personnes peut-être seraient à la rue, mais ça les place dans une situation de dépendance, de domination dans le logement qui n'est pas leur logement. Et au final, ben, ça entrave un peu leur chance de s'insérer dans la société, d'avoir un boulot, de fonder une famille. On peut difficilement fonder une famille quand on habite chez quelqu'un d'autre.
Vous alertez dans ce rapport sur, je cite, « tous les signaux sont au rouge, de l'accès au logement aux mauvaises conditions d'habitat en passant par les difficultés à payer son logement et ses charges ». C'est assez terrible comme constat.
Oui, la période est très difficile. On voit qu'on bat des records historiques, mais des mauvais records. Par exemple, les expulsions locatives. Il y a eu 25 000 expulsions avec le concours de la force publique l'année dernière. C'est un record, c'est trois fois plus qu'il y a 20 ans. Donc on est vraiment sur une explosion. Sur le confort à domicile, les Français ont froid parce qu'il y a eu une montée des prix de l'énergie, une montée de la pauvreté aussi. Donc on a 35% des Français qui ont froid. Là encore, on était à 14-15% il y a quelques années. Donc il y a des choses qui se passent qui sont très inquiétantes. Et puis la demande de logement social qui continue à augmenter. On est à 2,9 millions de ménages qui attendent un logement social. Au début du premier quinquennat Macron, c'était 2 millions. Donc on a augmenté de 50% en quelques années. Et donc il y a une pénurie de logements, mais de logements accessibles, notamment des logements sociaux. C'est là que la demande est la plus forte. Pas partout en France, évidemment, mais dans les zones tendues, sur l'arc atlantique, dans les grandes métropoles. Et on a besoin d'une politique du logement, mais surtout du logement des personnes défavorisées, des personnes qui ont peu de moyens. bien et qui sans ça stagne chez des amis, chez de la famille, parfois dans des hébergements d'urgence pendant des années. Mais la vie est très difficile dans ces conditions.
Est-ce qu'il existe des solutions concrètes, Manuel Domergue, pour essayer d'enrayer cette situation? Est-ce que ce n'est qu'une question de choix politique ou alors il y a aussi à prendre en compte le mauvais état des finances publiques qui n'arrange pas la situation?
Oui, alors évidemment, il y a une question d'investissement public. Depuis 15 ans, l'État s'est beaucoup désengagé du logement en général. Donc aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Et puis, il y a des solutions qui ne coûtent pas cher. L'encadrement des loyers, par exemple, qui est mis en œuvre par 70 communes désormais, parmi les plus grandes de France, est utile, marche bien, ça ne coûte rien. C'est un impact réel. 1 700 euros de loyer en moins pour les Parisiens grâce à cet encadrement des loyers.
Par an, donc
c'est un 13e mois. Qu'on vous offre grâce à cet encadrement des loyers. Donc à un moment, il faut réguler le marché de l'immobilier, éviter les abus les plus criants. Et ça, cette loi de l'encadrement des loyers, elle est menacée parce qu'en novembre, elle s'arrête. C'était une expérimentation. Et donc nous, on espère que les futurs élus locaux pour qui on va voter le mois prochain vont faire pression pour que cet acquis social puisse perdurer.
Et le directeur des études de la Fondation pour le logement, Manuel Domergue, sur France Info. C'est un numéro indispensable qui vient en aide tous les jours, 24 heures sur 24, aux femmes victimes de leur conjoint. Le 3919, qui est de plus en plus confronté à des hommes qui multiplient les appels malveillants, parfois même coordonnés, et ils entravent donc le bon fonctionnement de la plateforme d'écoute gratuite. Valentin Dunat, vous vous êtes rendu pour France Info dans les locaux où l'on répond au téléphone.
C'est en région parisienne. La localisation doit rester confidentielle pour des raisons de sécurité. Il y a une porte blindée, des caméras de vidéosurveillance. À l'intérieur, elles sont 50 à se relayer jour et nuit.
Accueil violence femme information, bonjour.
J'ai rendez-vous avec Marie-Agnès qui travaille ici depuis 6 ans. Sa mission, c'est de filtrer les appels.
Oui, c'est une situation de violence conjugale? D'accord, donc madame, normalement je vous mets en relation avec une écoutante. C'est une personne qui va prendre le temps avec vous de vous orienter, voilà.
Là, le coup de fil que vous venez d'avoir, c'était quoi concrètement?
C'est une violence physique et verbale et psychologique. C'est une dame que son mari l'a mise dehors et elle ne sait pas où aller.
Des appels comme ça, Marie-Agnès en traite plusieurs dizaines par jour, évidemment.
C'est très difficile, mais c'est très précieux.
C'est donc dans ce contexte qu'elle doit faire face à des appels malveillants venant d'hommes qui cherchent à dévaloriser son travail.
Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend aussi la place des femmes. Et des fois, c'est des insultes.
On vous a insulté plusieurs fois?
Oui, on m'a insulté plusieurs fois, oui. Et des fois, ils disent pourquoi c'est uniquement pour les femmes, il y a aussi des femmes violentes. Et...
Vous sentez quoi? De la nervosité vis-à-vis
de
vous?
Oui, la nervosité, oui. Et je sens la haine aussi de ces personnes-là envers les femmes, par les propos.
Vous n'avez pas envie de dire ce qu'ils disent?
Non.
Pourquoi?
C'est trop dur à écouter.
Il faut savoir que depuis sa création, il y a plus de 30 ans, les écoutantes du 3919 ont déjà été la cible de propos malveillants. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a désormais des actions qualifiées de coordonnées par celles qui gèrent le 3919.
Minée Gunbay, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Ce sont clairement des attaques masculinistes. Le projet politique est de pouvoir attaquer des dispositifs dédiés aux femmes. Je pense que ce n'est pas tant les mots et la graduation de ces mots-là qui est importante que l'objectif qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça peut se faire aussi avec beaucoup de calme, tout ça. Il n'y a pas besoin d'être violent par les mots pour intimider. Ne serait-ce que les rappels et la coordination est une forme d'intimidation en soi.
Alors, qui est à l'origine de ces appels? La Fédération nationale Solidarité Femmes pointe du doigt un collectif qui milite notamment pour l'ouverture du 3919 aux hommes victimes de violences conjugales.
Est-ce que ce sont ces mêmes personnes qui coordonnent les appels au 3919? Aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, il y a un faisceau d'indices, comme on dirait, qui tend quand même à prouver que leurs actions ont des conséquences.
J'ai donc contacté ce collectif qui précise qu'il n'a jamais mené ni appelé à mener une quelconque campagne de saturation du 3919 et qui condamne sans réserve ces actions. Ce collectif réclame depuis plus d'un an soit un élargissement du 3919 aux hommes, soit la création d'une ligne nationale spécifique pour les hommes qui représente 16% des victimes de violences conjugales.
France Info, reportage signé Valentin Dunat. Restez avec nous dans un instant sur France Info, une nouvelle étape de notre tour de France des municipales. Nous serons à Grenoble où les choses bougent beaucoup.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, la fin d'un marathon parlementaire.
Les deux dernières motions de censure déposées contre le gouvernement ont été écartées. Le budget 2026 est donc adopté. Le Premier ministre Sébastien Lecornu affirme que ce budget contient la dépense publique et n'augmente pas les impôts pour les ménages et les entreprises. La fille de l'ancien ministre Jack Lang démissionne du syndicat des producteurs indépendants. Caroline Lang est citée dans l'affaire Jeffrey Epstein, ce financier américain au cœur d'un scandale sexuel. Les deux ont des liens financiers. Ils ont cofondé en 2016 une société offshore dans les îles Vierges. Jack Lang dit assumer, lui, ses liens avec Epstein, mais dit que rien ne laissait supposer de ses crimes à l'époque. Son premier texte a été écarté par le Conseil constitutionnel. Le sénateur Les Républicains Laurent Duplon dépose une autre proposition de loi pour autoriser la réintroduction de plusieurs pesticides interdits en France, des néonicotinoïdes dangereux pour les abeilles et potentiellement pour la santé humaine. Rendez-vous à 21h10 ce soir. L'OM affronte Rennes en 8e de finale de la Coupe de France. C'est à suivre sur France Info. Marseille retrouve son public après son élimination en Ligue des Champions et une défaite contre le Paris FC en championnat.
France Info.
Je vous le disais, les choses bougent beaucoup à Grenoble à l'approche de l'élection municipale. Le maire sortant, l'écologiste Éric Piolle, a choisi de ne pas se représenter pour tenter de lui succéder et de conserver la ville à gauche. C'est Laurence Ruffin, la sœur du député François Ruffin, qui a été choisie. Les Insoumis feront bande à part. Et puis un ancien maire de droite veut retrouver son siège, Alain Carignon. Au total, il y a 10 listes déclarées, Alain Gastal.
Grenoble a longtemps été un laboratoire pour la gauche. Elle est aussi la première grande ville de France à élire en 2014 un maire écologiste et il suffit de quelques pas dans la ville pour constater l'omniprésence du tramway ou encore la place accordée au vélo. Mais derrière la vitrine, il y a parfois un malaise comme dans cette école rénovée tout proche du centre-ville que visite la candidate de gauche.
Et c'est quoi globalement les remontées qu'on vous fait alors en ce moment ?
Sécurité dans le parc. Oh,
plus gros problème. On peut pas aller faire du sport ici parce qu'il y a toutes ces problématiques à cause des dealers.
La drogue qui s'est installée dans ce quartier, plus des immeubles dégradés par les incendies. Le maire, il n'a rien fait. Vous allez faire quoi ?
Alors, le logement, c'est la métropole. Ce qui n'empêche pas que ce qu'on porte, c'est que le logement devienne prioritaire. Il y a eu peu d'investissements sur le logement et on souhaite vraiment augmenter le logement social.
Laurence Ruffin, qui veut aussi se démarquer de l'équipe sortante en annonçant le recrutement de 50 policiers municipaux.
On est très attendu sur le fait d'avoir une police en proximité avec la population, une police que nous, on appelle une police de quartier. L'objectif, en tout cas, c'est d'avoir une police de quartier dans tous les quartiers de Grenoble.
La sécurité, c'est aussi le thème du principal opposant.
Alain Carignon.
Ancien maire, condamné dans les années 90 pour corruption et abus de biens sociaux, il est devenu le principal opposant de l'équipe sortante. Il est soutenu par LR.
Grenoble est la première ville de France pour les îlots de chaleur. Grenoble est la première ville de France pour le taux de taxe foncière. Elle est la première pour les agressions pour 1000 habitants. La vie des Grenoblois devient très difficile.
Et lui, il veut 150 policiers municipaux de plus, des caméras de surveillance reliées à un PC, ouverts jour et nuit, et propose des économies pour financer tout cela.
Pourquoi la ville a augmenté les impôts de 30% en 2023, parce qu'elle ne maîtrise pas ses frais de fonctionnement, et la métropole idem.
Pendant ce temps-là, la France insoumise quadrille les quartiers populaires avec un jeune candidat en tête de liste.
Brunon Alan, et j'ai 26 ans.
Alan Brunon plaide pour la gratuité des cantines scolaires et veut aller, comme à Montpellier, vers la gratuité des transports en commun.
Vous savez, la gratuité des transports avait déjà été avancée par Éric Piolle. Nous nous disons que nous sommes en capacité de la financer et nous pensons que la mobilité doit être un droit inaliénable des individus pour lutter contre la pollution et la précarité galopante dans les centres-villes.
Parmi les autres listes, celle du centriste Pierre-Édouard Cardinal, soutenu par Renaissance et le Modem. Lui, il veut réconcilier la voiture et le vélo.
Ce clivage, il a généré des tensions et également des effets délétères sur la circulation et sur l'accessibilité de la ville de Grenoble.
Au centre-gauche, on trouve également la liste de Romain Gentil, soutenu par Place Publique, et au centre-droit, soutenu par Horizon, celle de l'avocat Hervé Gerbi.
Merci beaucoup Alain Gastal pour ces précisions sur la course des municipales à Grenoble. Il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie.
Bonjour Thomas Chesser.
Bonjour.
Vous êtes à la fois historien de l'art, directeur de la fondation Hartung Bergman, et vous êtes écrivain. C'est votre deuxième roman, Dans les yeux de Mona, qui vous a propulsé sur le devant de la scène. Aujourd'hui, vous enfoncez le clou avec votre nouveau roman, Le chat du jardinier, aux éditions Albin Michel. C'est une initiation purement et simplement à la poésie. D'ailleurs, vous démarrez avec ces mots, au bon et au mauvais élève, mais surtout au mauvais et au bon professeur, mais plutôt au meilleur. Vous avez été élève. Aujourd'hui, vous êtes prof, d'ailleurs, depuis 2014 à l'école polytechnique. La passion des mots passe passe aussi par la transmission.
Bah bien sûr. Et d'ailleurs, on a des professeurs de français extraordinaires dans notre magnifique pays. Ce livre est aussi une façon de leur rendre hommage, puisqu'il y a deux personnages. Il y a un jardinier et il y a une professeure. Et c'est elle qui va l'initier à la poésie. Moi-même, j'ai eu la chance, alors que j'étais pendant longtemps un cancre, et un vrai cancre, de tomber un peu tardivement sur une professeure qui m'a éveillé aux mots. Et je sais à quel point il y a des lecteurs, des lectrices qui peuvent se reconnaître dans cette expérience. Nos professeurs jouent un rôle essentiel.
Comment vous l'avez découvert alors, cette poésie ?
En lisant un poète, qui est un poète d'ailleurs que je recommande absolument à tout le monde, parce que c'est un poète à la fois sophistiqué et très simple. C'est Guillaume Apollinaire. Vous savez, c'est le fameux qui écrit le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Ces mots tellement simples qui sont si vrais. La joie venait toujours après la peine, qui sont des mots d'espoir au milieu d'un poème de chagrin, de dépit amoureux. Guillaume Apollinaire, en effet, par sa mélancolie légère et puis par son courage aussi, c'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, ce sont aussi des héros pour moi avec lesquels je me suis construit.
La poésie, c'est un pont, justement, entre nous et nos émotions.
Oui, dans Le chat du jardinier, le personnage de Louis, le jardinier, est un hypersensible. C'est-à-dire qu'il est en permanence...
C'est un colosse, hein. C'est vraiment... Il n'a pas du tout la sensibilité de son physique.
Ce qu'il dégage, c'est une force de la nature, c'est quelqu'un qui a une carrure, mais en son sein, en son cœur et en son âme, il a l'impression d'être toujours débordé par toutes ses émotions. Et en particulier, l'une d'elles, c'est qu'il a un petit chat qui est malade et ça le rend infiniment malheureux.
Ça le bouleverse.
Et la poésie est un moyen absolument formidable, je dirais, à la fois de canaliser ces émotions parce que ça nous permet de les identifier et ça permet aussi de les laisser s'exprimer. Parce que nous sommes dans une époque qui bien souvent verrouille notre intériorité. La poésie, c'est aussi l'autorisation d'un grand flot lyrique et affectif.
Cette histoire, elle raconte un duo. Il y a Thalie d'un côté, effectivement, cette prof retraitée. Il y a Louis qui est à fleur de peau, qui est sensible, lui se dit sensible. La psychologie, vous l'expliquez d'ailleurs, vous rendez ce mot plus pointu, nomme ça l'hypersensibilité. Comment on gère cette hypersensibilité que vous possédez, Thomas Schlesser ?
Alors, c'est pas quelque chose d'évident. L'hypersensibilité, en fait, c'est la sensation permanente d'être en connexion avec le monde, de sorte que quand quelque chose peut sembler anodin, on peut être bouleversé au point de pleurer, mais au point parfois aussi d'éclater de rire. C'est-à-dire que ce qui relève à la fois de la mélancolie ou de l'extrême bonheur affleure en nous sans qu'on sache véritablement comment le gérer.
On comprend d'ailleurs et on a en tête immédiatement dès qu'on ouvre cet ouvrage et qu'on découvre l'univers de Louis, ce petit chat qui est malade, encore une fois, ce qui le bouleverse, mais ce qui lui donne envie finalement de croquer davantage la vie à plein dents, de profiter de l'instant, c'est apprendre à cultiver son jardin.
La poésie, bien souvent, est perçue comme simplement le lieu de la fragilité, de la fébrilité, du chagrin, mais la poésie, c'est aussi un fortifiant. Et en fait, ce que va comprendre Louis, c'est que en s'appropriant la poésie, il retrouve en lui-même une force de caractère qui lui permet en effet d'affronter les événements. Rappelez-vous quand même que Nelson Mandela avait dans sa cellule des vers d'un poète anglais qui s'appelle Henley et dont la fin dit ceci: si étroit soit le chemin, qu'on me juge, qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Quand vous avez ça en tête, mais vous pouvez tout affronter, surtout quand vous connaissez le destin de Mandela.
Ça nous amène à une chose très importante et essentielle, c'est la liberté.
Oui.
C'est ça que vous cherchez d'ailleurs à travers cette écriture, à travers le travail de l'écriture, que chacun et chacune d'entre nous puisse trouver le chemin de la liberté.
Je crois que c'est la valeur cardinale. Je crois que c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans une époque où celle-ci est mise à mal, cette valeur de liberté. Et du coup, la poésie, par l'élan de liberté qu'elle propose, s'impose aussi comme force politique. À chaque fois que le langage se restreint, se réduit, il y a une forme d'oppression sur la pensée. Donc, ce que j'espère, c'est que quand les gens liront Le chat du jardinier, ils comprendront qu'ils peuvent s'exprimer de la manière la plus libre qui soit, non seulement pour eux-mêmes et pour le ravissement esthétique, mais parce que fondamentalement, c'est une nécessité politique.
Merci beaucoup, en tout cas Thomas Schlesser, d'être passé par Le Monde d'Élodie sur France Info. Le chat du jardinier, je le recommande vraiment vivement. C'est sorti aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci. Et merci à vous, Élodie Suigo.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, le défilé des perturbations se poursuit.
Mais oui, alors d'ailleurs, pour la suite, selon les dernières mises à jour des modèles météo, il semblerait que ce temps perturbé nous accompagne quand même jusqu'au 15 février avec quelques petits moments de répit, mais vraiment des perturbations qui se poursuivent, qui continuent leur défilé. Ensuite, l'air froid pourrait basculer sur la France. On en parle depuis un petit moment de cet air froid qui n'arrive pas vraiment. Il pourrait, là, à partir du 15 février, basculer sur la France. C'est encore à valider, évidemment. Alors, pour aujourd'hui, on a le soleil qui pousse par le sud, de belles éclaircies qui se mettent en place. Au nord, ça sera beaucoup plus difficile avec un régime d'averses qui va se mettre peu à peu en place. Lui aussi, des averses de plus en plus espacées. Au nord de la Seine, ça restera quand même bien bouché avec de la pluie. Au niveau des températures, 8 à Strasbourg, 9 à Lille, à Reims, à Abbeville, de prévu pour cet après-midi, jusqu'à 10 à Rouen, 11 à Paris, 12 à Rennes, ça évolue que très peu, 13 du côté de Nice. Il fait toujours bon dans le sud-ouest, jusqu'à 15-16 degrés du côté de Toulouse, Montauban, Biarritz, mais également à Perpignan, à Montpellier, jusqu'à 16 en Corse.
Merci beaucoup Christine Peña. Ce qui vous attend d'ici 6 heures sur France Info, le budget définitivement adopté au Parlement après des mois de bataille parlementaire. Le Premier ministre est-il le grand gagnant? Vous allez entendre le politologue Benjamin Morel dans 5 minutes. À suivre aussi un grand dossier sur l'Iran avec la possibilité toujours d'un accord entre Téhéran et Washington pour éviter la guerre. Merci d'écouter France Info. En tout cas, en ce 3 février, il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal.
France Info. William Guécosta.
Emmanuel Macron à la rencontre du monde agricole 2 semaines avant le salon de l'agriculture à Paris, le chef de l'État. Et ce matin, en Haute-Saône, après plusieurs mois de regain de la colère du monde paysan, rendez-vous est pris chez un éleveur laitier près de Vesoul. Traité avec le Mercosur, normes jugées très contraignantes, instabilité politique aussi. Les représentants de la profession sur place espèrent plus de visibilité. Jean-François Fernandez.
Après une journée de travail, les agriculteurs doivent passer un moment sur l'administratif qui est toujours plus lourd. Ils souhaitent une simplification des normes, mais pour cela il faut des interlocuteurs stables en face d'eux. Michael Mulmater est président de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône.
Alors il y a beaucoup de choses qui avancent. Malheureusement, on a un gouvernement qui est un peu instable, avec des députés qui n'ont plus forcément de majorité. Donc on travaille aujourd'hui avec beaucoup de compromis, mais c'est dommage parce qu'il y a quelques sujets qui pourraient avancer rapidement, qui coûtent rien aux contribuables français ou à l'État français, mais qui permettraient une vraie simplification pour nos exploitations.
Le président visite une exploitation laitière. Il faut dire qu'au niveau mondial, la production de lait est en hausse, ce qui entraîne une baisse des prix, une situation compliquée. Guillaume Fauconnier est président de la FDPL 70 qui regroupe les producteurs laitiers.
Sur les 5 dernières années, nous avons eu 3 années où c'est qu'on n'était pas à la rentabilité, une année où on était un petit peu près à l'équilibre, et 2025, c'est qu'on a une année positive aujourd'hui sur la filière laitière, avec des prix qui sont plutôt rémunérateurs, et aujourd'hui, on nous annonce des baisses plutôt draconiennes. Donc ça, aujourd'hui, c'était la marge qui nous restait pour pouvoir se développer et continuer d'investir dans la filière.
La profession demande donc une agriculture de production et non pas une agriculture de taxes et de normes.
Merci Jean-François Fernandez, ici Besançon pour France Info. À noter que le sénateur Laurent Duplomb annonce avoir déposé une nouvelle proposition de loi pour réintroduire des pesticides interdits en France, des néonicotinoïdes. La première loi Duplomb, saluée par une partie du monde agricole, avait été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Après 3 semaines d'audience, c'est l'heure du réquisitoire aujourd'hui au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés FN, où Marine Le Pen espère cette fois éviter l'inéligibilité qui la prive pour le moment de présidentielle en 2027. Après les plaidoiries des 2 avocats du Parlement européen ce matin, Mathilde Le Maire, l'accusation va donc prendre la parole dans l'après-midi.
Oui, les 2 avocats généraux qu'on a assez peu entendus à l'audience diront leur sentiment global sur ce dossier et démontreront point par point les infractions caractérisées selon eux. Au cours des 3 semaines de débat, Marine Le Pen a été moins prolixe, moins tempétueuse qu'en première instance, moins prompte à dénier la légitimité des juges ou à commenter l'audience devant micros et caméras. Elle se dit toujours innocente, mais a reconnu des imprudences et globalement a eu une attitude plus discrète dans l'espoir que la condamnation, si elle semble inévitable, soit au moins moins lourde. Aucun doute, la chef de file des députés RN écoutera les réquisition cet après-midi avec attention. Son sort politique dépend de l'issue de ce procès. En première instance, elle avait dénoncé une peine de mort politique et écopée de 5 ans d'inéligibilité. Si en appel, cette peine reste au-dessus de 2 ans d'inéligibilité, elle devra renoncer à la présidentielle 2027. Autre point essentiel, la possible peine de prison ferme, même aménageable, elle constituerait un sérieux handicap. Comment sillonner la France de réunions de campagne en meeting avec à la cheville un bracelet électronique.
Mathilde Le Maire, service police-justice de France Info qui suit donc ce procès. procès de Marine Le Pen. La cour d'appel de Paris confirme le renvoi devant une cour criminelle d'un policier accusé d'avoir éborgné en 2019 Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. C'était lors d'une des manifestations dans la capitale. La famille de Christophe Glaize a pu lui rendre visite en prison en Algérie, annonce du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Le journaliste français est au cœur d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Alger. Il a été condamné l'été dernier à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme pour des reportages sur un club de foot kabyle. Et puis, il y a les Césars pour le cinéma, les Victoires pour la musique et pour la deuxième année consécutive, les Augustes pour l'humour. Et c'est Élodie Poux qui vient d'être sacrée humoriste de l'année. Muriel Robin, elle, reçoit l'Auguste d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il est 5h34 sur France Info. Merci d'être avec nous.
France Info, 5h-6h, William Gay-Costa.
La France a donc un budget officiellement depuis hier soir. Le budget 2026 a été définitivement adopté. Les opposants du gouvernement ne sont pas parvenus à faire voter à l'Assemblée nationale leur motion de censure. Le Rassemblement national et une partie de la gauche a des motions après le déclenchement du 49-3 par le Premier ministre. C'est donc la fin d'un feuilleton qui semblait interminable. Qui en sort donc politiquement gagnant? Est-ce l'opposition? Est-ce le Premier ministre? Voilà l'analyse de Benjamin Morel, politologue, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas.
C'est plutôt Sébastien Lecornu. Hein. Il était certain qu'au mois de septembre-octobre, lorsque son gouvernement n'avait duré que quelques heures, hein, le plus court gouvernement depuis Charles X, on ne lui prêtait pas beaucoup d'espoir pour faire passer son budget, ni même pour survivre. Or, on voit que là, malgré tout, eh bien, il est parvenu non seulement à survivre jusque-là, mais également à faire passer deux budgets dans des conditions difficiles et avec une certaine habileté parlementaire.
Et pourtant, Benjamin Morel, on a l'impression que personne ne revendique vraiment la paternité de ce budget.
Non, il est inassumable par tout le monde. Hein. Pour les socialistes, il est évidemment trop à droite. Pour les LR, il est évidemment trop à gauche. Et pour les macronistes, ça revient sur un certain nombre de signifiants politiques fondamentaux qui avaient marqué leur ADN politique. Donc, c'est le principe d'un compromis. C'est-à-dire que la chose n'est assumable par personne, mais elle n'a malgré tout été censurée que par pas assez de monde d'une certaine façon. Il n'est pas certain en revanche que ce soit aussi facile l'année prochaine, à quelques mois d'une élection présidentielle.
Et qui va payer la facture politique, en tout cas la plus importante justement après ce budget? Ce sont les LR selon vous, puisque vous faisiez allusion à cette législative partielle hein, qui voit notamment le parti d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, être largement en tête.
C'est difficile à dire à ce stade, hein. C'est-à-dire qu'on a évidemment des LR qui sont dans une situation particulièrement compliquée, mais on a également des socialistes. Hein. On a plusieurs enquêtes qui montrent que leur électorat n'est pas particulièrement content de ce compromis, alors que ben ils sont réputés, pas tout à fait à tort, avoir à la fois plutôt bien négocié puis avoir obtenu un budget dans lequel des signifiants politiques fondamentaux ont été inclus. Mais il est certain que ce sont les deux partis qui ont le plus à perdre à court terme, tout bêtement, parce que ben, c'est les deux grands partis d'élus en France, et ces deux grands partis d'élus mettent en jeu énormément de communes et énormément de municipalités dans un mois. Et donc si leurs électeurs leur en veulent, eh bien la sanction sera rapide.
Y compris dans des élections municipales qui sont, on va quand même le rappeler, c'est un scrutin local.
Alors c'est un scrutin local et la grande question c'est le degré de nationalisation de ces élections. On a eu des élections très peu nationalisées la dernière fois parce que ben vous avez un champ politique local qui était tenu par les anciennes formations politiques, PS, LR essentiellement, et un champ politique national dans lequel elles étaient très fragilisées pour ne pas dire absentes. Donc dans lequel la sanction n'avait pas vraiment de sens pour les élus locaux. Mais les élections locales sont de manière traditionnelle une forme de défouloir pour des électeurs qui sont peu inclus dans la vie politique locale, mais qui vont nationaliser les conséquences de l'élection, soit pour sanctionner, soit pour soutenir. Et donc la question, c'est est-ce que là, on aura un phénomène de nationalisation de ces élections? À un an d'une présidentielle, après un budget compliqué, c'est quelque chose qui peut être à craindre.
Vous faisiez allusion, je reviens rapidement, mais sur cette législative partielle, ça s'est passé en Haute-Savoie où c'est la première fois que l'extrême droite remporte un siège. C'était un duel face aux Républicains, justement. Est-ce que vous en tirez quand même des enseignements, malgré, on va le rappeler quand même, un faible taux de participation, hein. 34%, c'est vraiment pas beaucoup.
C'est en effet un trop faible taux pour tirer des conséquences majeures. Néanmoins, il y a deux éléments. On est face à une circonscription où, en effet, le RN était très peu implanté, ce qui montre que, et où la droite était forte, ce qui montre une porosité affirmée entre l'électorat de droite et l'électorat RN, parce que ces électeurs ne viennent pas de nulle part. L'autre élément, c'est que le RN a un électorat très abstentionniste. En gros, cet électorat, il ne vient que quand il pense qu'il y a un enjeu. Et donc, il vient durant les grands messes électorales nationales pendant très longtemps que aux présidentielles, maintenant aux présidentielles et aux législatives. Si jamais cet électorat s'est mobilisé sur une législative partielle, donc avec assez peu de publicité, assez peu de visibilité, hein, il fallait vraiment regarder pour savoir qu'il y avait une élection. Ça veut dire que c'est un électorat qui est prêt à se mobiliser hors de ces grands messes électorales. Et ça, évidemment, pour le RN, c'est un signe plutôt encourageant pour les élections municipales, où d'habitude, son électorat est plutôt absent.
Le maître de conférence en droit public à l'université de Paris Panthéon Assas, Benjamin Morel, sur France Info. Sans accord, de mauvaises choses se produiraient probablement pour la République islamique d'Iran, prévient Donald Trump. Le président américain continue de menacer le régime des Mollahs d'une intervention militaire après la vague de répression sanglante dans le pays qui a coûté la vie sans doute à des dizaines de milliers de personnes selon les bilans très partiels des ONG. Pour l'heure, des discussions semblent se préparer et au cœur des négociations, il y aura à coup sûr le programme nucléaire des Iraniens et ce doit être une priorité, estime Emmanuelle Galichet. Elle est enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers.
La première chose qu'ils ont à négocier, c'est évidemment le retour des inspecteurs qui sont les vrais experts du nucléaire et en particulier en Iran, des installations nucléaires iraniennes, le retour sur le terrain là où, depuis le mois de juin, ils n'ont pas pu aller, c'est-à-dire en particulier les sites qui ont été endommagés. Il faut absolument aller voir où en sont les reconstructions, par exemple, et puis savoir reprendre en fait une comptabilité des matières nucléaires sur laquelle nous avons perdu complètement le compte. Nous avons besoin, pour commencer des négociations, d'avoir un état des lieux exact, fait par une instance un petit peu neutre, un petit peu hors les deux grandes parties qui sont les États-Unis et l'Iran.
Est-ce que vous pensez qu'une grande partie du potentiel nucléaire iranien avant la guerre a été détruit aujourd'hui?
Il y a quand même un bon nombre de sites qui ont été touchés. Ça ne veut pas dire que le programme est définitivement anéanti. Les Iraniens sont très forts, hein. Ils ont une grande capacité scientifique et technologique et industrielle. C'est un grand pays scientifique et industriel. Leurs installations ont été touchées plus ou moins gravement, mais bien sûr, comme vous le comprenez, c'est pas difficile quand on a les compétences de reconstruire en fait. Si vous avez les compétences, ils ont construit ces sites, ils savent les reconstruire. Mais bien sûr, il faut quand même des semaines, voire des mois, et un beaucoup d'argent évidemment pour reconstruire l'ensemble comme il l'était avant les frappes.
Quel est selon vous l'état des lieux du nucléaire en Iran? Si Washington veut passer un accord, c'est qu'ils ont forcément des informations et que l'Iran est peut-être toujours en train de travailler avec ce nucléaire.
Si on reprend sur les négociations qu'il y avait eu en 2015 sur l'accord de Vienne, l'objectif de ces accords à l'époque, avant que Trump les déchire, c'était d'avoir une année, voire 18 mois de visibilité avant que les Iraniens, au cas où, puissent avoir la bombe atomique. Donc vous voyez qu'ici, si on reprend les négociations, en fait, c'est pas d'interdire tout. C'est simplement de se donner du temps pour que chacune des parties puisse déjà un, reprendre confiance entre les deux parties, parce que aujourd'hui, les dernières négociations au mois d'avril et mai 2025 n'étaient pas du tout sur un pied d'égalité. Il faut qu'ils reprennent confiance pour pouvoir justement faire des compromis de chaque côté. Donc, évidemment, ces prochaines vendredis, s'il y a effectivement une réunion qui semble être se préciser, eh bien, on va essayer de mettre sur la table qu'est-ce que peuvent accepter les Iraniens, qu'est-ce que peuvent accepter les Américains, et essayer de trouver un compromis.
Emmanuel Galichet, où en sont les Iraniens aujourd'hui sur la question de l'enrichissement d'uranium ?
Avant les frappes de la guerre des 12 jours, ils avaient un certain nombre de kilos d'uranium enrichi à peu près 60%. On dit qu'ils étaient arrivés à 440 kilos d'uranium enrichi à 60% en uranium-235, c'est ça que ça veut dire.
Expliquer peut-être à celles et ceux qui nous écoutent pour essayer de vulgariser.
Absolument. Ce qui permet, si on va jusqu'à un autre enrichissement, à 60%, on ne fait pas une arme atomique. Il faut aller un peu plus loin, il faut aller à 90% d'enrichissement, donc à un uranium-235 quasi pur, pour pouvoir faire un certain nombre d'armes. Avec ces 450 kilos, disons, eh bien, ils étaient capables d'arriver à peu près entre 8 et 10 bombes.
Quelles sont les compétences de l'Iran sur le plan nucléaire ?
Elles sont très très grandes. C'est un pays qui, avant la révolution islamiste et même pendant la révolution islamiste, a des universités, des centres de technologie et des centres de recherche de très haut niveau. C'est un vrai pays nucléaire.
L'enseignante chercheuse Emmanuelle Galichet, spécialiste en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Alors, dans cette période très troublée en Iran, une chaîne de télé continue d'informer les Iraniens du monde entier. Son siège est à Londres et ses journalistes sont menacés. France Info, au cœur d'Iran international. On y revient après un nouveau tour complet de l'actualité.
France Info. 5h-6h.
La fin en une minute à 6h moins le quart, c'est avec Maureen Suignard. Et à la une, ce chiffre, 600 000 Français qui sont aujourd'hui chez un ami ou de la famille.
Constat de la Fondation pour le logement, ces milliers de Français qui dorment chez des tiers ne le font pas par choix, mais parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur propre logement faute d'argent. La Fondation s'inquiète des maltraitances qui peuvent découler de ce type de situation. Le syndicat de police Unité SGPFO dénonce sur France Info des tentatives d'homicide. Plusieurs policiers ont été blessés hier lors de refus d'obtempérer en Loire-Atlantique, en Seine-et-Marne et dans le Val-d'Oise. Des automobilistes qui foncent sur les agents pour échapper à des contrôles. Okaidi va officiellement demander son placement au redressement judiciaire. Aujourd'hui, la marque de vêtements pour enfants souffre de la concurrence des enseignes à bas coût et des magasins généralistes. Et puis mieux vaut se dépêcher. Un habitant du Vaucluse qui a gagné 1 million d'euros à l'euro-million est toujours recherché par la Française des Jeux. Le gagnant doit se faire connaître avant lundi prochain.
France Info.
Elle défie tous les jours la censure du régime iranien. Dans le choix de France Info ce matin, nous sommes dans les locaux ultra sécurisés d'Iran International, une chaîne de télévision à destination des Iraniens, mais qui est installée à Londres, considérée comme une organisation terroriste d'ailleurs par le régime de Téhéran. Les Iraniens y ont accès par satellite et ils ont pu continuer à la regarder pendant la coupure totale d'Internet pendant les manifestations. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Correspondante de France Info à Londres. Alors derrière cette chaîne, il y a des centaines de journalistes, Gaëlle, qui informent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, malgré des menaces qui pèsent sur eux.
Oui, caché dans une zone industrielle du nord de Londres, l'immense hangar gris est une vraie forteresse. À l'entrée, des blocs de béton anti-intrusion, des hauts grillages et des portiques de sécurité dernier cri. Car les menaces se multiplient, Reza Mohandes doit vivre avec. Il est l'un des présentateurs et rédacteurs en chef de la chaîne. Il a dû quitter l'Iran il y a 17 ans.
On reçoit par exemple des mails qui viennent de la République islamique. Le dernier que j'ai reçu disait « démissionne, sinon on sait où tu habites, on connaît ton trajet, on va venir te poignarder, te tuer. » Mon collègue a été poignardé l'an dernier juste devant chez lui. C'est dur, oui, mais j'ai fait ce choix. Une fois, ils m'ont appelé du portable de mon père, là-bas en Iran, pour me dire de démissionner. Ils ont essayé d'arrêter ma famille, donc j'ai limité mes contacts avec eux. Mais non, je n'ai pas peur.
En
2023, la chaîne a dû fermer pendant plus de 7 mois avant de déménager sur les conseils de la police antiterroriste britannique qui surveille de très près ces menaces d'ingérence.
Et chaque jour, Gaëlle, la rédaction reçoit des centaines de vidéos qui témoignent de la violence du régime.
Et ces vidéos insoutenables, Mohsen Mohimani, le rédacteur en chef du numérique, en visionne une grande partie. Il nous explique comment il recoupe les informations.
Ça, c'est le 31 janvier 2026.
Oui, des messages comme ça, on en a des centaines. Des messages, des vidéos, des audios, chaque jour. On recoupe avec les reportages officiels, notre réseau d'infirmières et de docteurs. On a aussi des sources à l'intérieur du gouvernement qui veulent révéler des informations.
Comme la volonté de faire le plus de morts lors de la répression des manifestations, poursuit Mohsen Mohimani.
Pour 90% des victimes, y compris les enfants, on leur a tiré dans les yeux. Ce qu'on a vraiment pu comprendre, c'est que c'était un mot d'ordre, toucher une partie du corps qui est vitale. Des fois, on se met à pleurer d'un coup en regardant ça à longueur de journée. C'est très douloureux, mais on veut être la voix des Iraniens.
Pour la chaîne, le bilan va au-delà des 30 000 morts les 8 et 9 janvier dernier, selon Reza Mouades, le présentateur, rédacteur en chef.
On est arrivé à la conclusion qu'au moins pour le moment, 36 000 personnes sont mortes. Et pourtant, c'était des familles, des mères avec leurs filles qui sont descendues dans la rue pour réclamer plus de liberté. Comment peut-on faire ça à son peuple? Comment peut-on les tuer comme ça? Mais moi, je pense que c'est le début de la fin.
Comme les autres, Reza Mouades n'attend qu'une chose, se débarrasser de ce régime.
Alors Gaëlle, la chaîne emploie plus de 200 journalistes. Elle revendique 40 millions de téléspectateurs. Elle se revendique d'être l'une des chaînes les plus regardées en Iran. Mais elle est aussi accusée d'être financée par l'Arabie Saoudite.
Oui, des accusations balayées par le porte-parole de la chaîne, Adam Bailly, qui dit défendre une chaîne indépendante.
Notre investisseur, c'est un Britannique saoudien, il n'y a pas de secret là-dessus. On n'a aucune connexion avec l'Arabie Saoudite, rien à voir avec ça. L'idée pour lui, c'est d'avoir un média indépendant au Moyen-Orient. Là, on se focalise sur Iran international, mais on a aussi Afghanistan international en Pachtoun. Donc, il n'y a aucun secret là-dessus.
Et contrairement à ce qu'affirment les autorités iraniennes, la chaîne, assure son porte-parole, ne soutient pas non plus le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, exilé aux États-Unis, mais représente l'ensemble des oppositions au régime des Mollahs.
Le choix de France Info au Royaume-Uni dans les locaux d'Iran International, signé Gaëlle Joly. Vous pouvez retrouver le choix de France Info, évidemment, en réécoute sur l'application Radio France. C'est l'une des marques les plus connues pour les tout-petits. Okaidi, la maison mère ID Kids, va demander aujourd'hui son placement en redressement judiciaire en raison de difficultés financières, en cause, entre autres, la concurrence qui affiche des prix plus bas, notamment la concurrence des friperies où les parents achètent des vêtements de seconde main pour leurs enfants, Mathilde Cariou.
Poussette à la main, Anna sort de la boutique Okaidi avec sa fille de 3 ans.
Je cherchais un snood, enfin un cache-cou pour elle, voilà. 12,99€.
C'est bien parce que c'est les soldes, admet cette maman, pas fan du shopping en magasin.
C'est très très occasionnel. En fait, j'achète quasiment rien. Je récupère beaucoup de vêtements qu'on me donne et sinon j'achète d'occasion quand j'ai besoin.
En ligne sur Vinted, dans les brocantes ou les friperies, les parents ont l'embarras du choix. Quelques mètres plus loin, Anna repère une petite robe en velours dans la vitrine d'un dépôt vente.
Mais pourquoi acheter une robe, je sais pas, chez Jacadi à 58€ alors qu'ici vous allez l'avoir à 18 ou 20€?
Claire, la gérante de Secret d'Enfance propose de la seconde main de marque, Jacadi, Petit Bateau, Tartine et Chocolat.
Oh, ça va de 3€, c'est mon tout petit prix, c'est un petit body, voilà. Et ça peut monter jusqu'à 150€, mais une doudou de Montclair.
Les clients sont de plus en plus nombreux, constate-t-elle, surtout pour du 2 à 8 ans. Selon une étude du cabinet Exerfis, 6% des parents achètent désormais des vêtements d'occasion. C'est le cas de Manon, la trentaine, pour sa petite fille de 1 an.
Je crois que les seules fois où je suis allée dans un magasin de vêtements pour enfants, c'était pour utiliser les bons cadeaux qu'on nous avait offerts lors de sa naissance.
Ensuite, il a fallu changer de taille tous les 2 mois. Manon ne s'attendait pas à de telles dépenses.
Je me souviens avoir vu une gigoteuse à 60€ dans un magasin, alors que en me baladant sur les brocantes, en commençant à me renseigner, demander quelques prix, etc., j'en avais qui étaient en vente autour de 5, 8, 10 euros.
La seule chose qu'elle achète neuve aujourd'hui, ce sont les chaussures, et ce, malgré les changements de pointure.
Parce que dans mon esprit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il faut que les chaussures soient neuves pour qu'elles se fassent au pied de celui qui les porte.
Budget moyen pour une garde-robe de seconde main, 100 euros par saison, presque 3 fois moins cher que le même panier en neuf.
Reportage signé Mathilde Cariou pour France Info. Un artiste très mystérieux dans la playlist de Maureen Suignard qui arrive, mais d'abord à 5h53, c'est le réveil de l'écho d'Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique, comme tous les matins, en 3 titres. On commence avec les embauches de cadres qui sont au plus bas en France.
Oui, au plus bas depuis que l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, a créé ce baromètre il y a 5 ans. Au 4e trimestre 2025, seuls 8% des entreprises interrogées ont embauché au moins un cadre. Un repli enregistré essentiellement dans les TPE, les très petites entreprises qui emploient moins de 10 salariés. L'APEC précise toutefois qu'en ce début 2026, plusieurs indices laissent présager une amélioration ou au moins un arrêt de la tendance à la baisse, c'est-à-dire que les intentions de recrutement se redressent.
L'administration fiscale française réclame près de 2 milliards d'euros à la plateforme de voitures de transport avec chauffeur Uber.
Oui, 1 milliard 700 millions d'euros précisément. Alors l'URSSAF lui inflige cette pénalité, estimant que le groupe américain a maquillé la relation d'employeur à salarié. Uber est en effet accusé par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales de déclarer ses chauffeurs en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations fiscales. Des contrats maquillés, donc. L'URSSAF Île-de-France estime que les 71 000 chauffeurs qui ont travaillé pour Uber entre 2019 et 2022 n'étaient pas de vrais travailleurs indépendants.
Alors Emmanuel, on parlait il y a quelques instants d'Idée Kids qui va demander aujourd'hui la maison mère d'Okaidi son placement au redressement judiciaire. Ce redressement judiciaire, il a été prononcé pour une compagnie aérienne, c'est Air Antilles.
Oui, décision du tribunal assortie d'une période d'observation de 6 mois. Air Antilles est victime d'un affaiblissement de sa trésorerie et ne peut plus faire face à ses engagements financiers. La compagnie ne dessert aujourd'hui que les îles françaises des Antilles, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique. En 2025, elle a transporté plus de 121 000 passagers et a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 18 millions d'euros.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco. Vous allez mettre des grandes oreilles, je crois.
Et oui, le groupe Disney commence l'année avec de bons résultats. Les parcs d'attractions fonctionnent plutôt bien du côté de chez Mickey avec un record d'affluence et de chiffre d'affaires, mais les marchés financiers s'attendent à ce que le tourisme américain ne pâtisse de la politique de Donald Trump. Donc, moins de touristes, c'est moins de fréquentation dans les parcs, ce qui pèse sur l'action Disney à la bourse.
C'est dingo cette histoire. Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h55, c'est l'heure de la playlist de Maureen Suignard. Et dans cette playlist, Maureen, vous nous parlez d'une consécration pour un artiste qui est encore peu connu. Hein.
Oui, il s'appelle Ariane Bonzini et c'est lui qui est à l'origine de ça.
Moi, j'ai besoin de toi, mais toi.
Cet extrait musical est devenu viral sur les réseaux sociaux à sa sortie en septembre dernier. D'abord parce qu'il nous met dans une sorte de coton, et certains apprécient, mais aussi parce que les internautes ont tiqué sur le décalage entre ce son très mielleux et le style d'Ariane Bonzini. On le voit sur ses vidéos, dans un petit studio, en chemise, look très sage, gestuelle un petit peu maladroite. On imagine qu'il a une 40aine d'années, mais très peu de choses filtrent sur lui. Il joue un peu avec ce côté mystérieux. Et il n'y a pas de commentaires moqueurs, c'est assez rare sur Internet, c'est pour vrai. Être souligné. Seulement des internautes soufflés et qui en demandent plus.
Tout finit par faire mal, tout le temps je crois que je dérange. Je vais encore faire une nuit blanche, je suis dans un cycle infernal. Au fond je voulais juste faire mieux, mais j'ai fini par faire mal. Je suis bloqué dans la spirale, j'ai loupé le bouquet final.
Et il y a eu plus, puisque Magenta est l'un des titres de l'album d'Ariane Bonzini qui vient de sortir et qui reste pour le moment assez confidentiel. Mais cela ne va peut-être pas durer, William, parce que le chanteur français a été invité à faire une Colors. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio situé en Allemagne qui invite des artistes souvent assez connus à se produire. Ce sont des performances live. Les chanteurs sont seuls devant un micro avec un fond de couleur uni derrière eux. On ne s'intéresse qu'à leur musique. Les vidéos sont ensuite publiées sur YouTube et font souvent des millions de vues. Ariane Bonzini fait partie des artistes émergents que le studio veut mettre en avant. Sa vidéo a été publiée hier soir.
Tout est si fragile, moi j'imaginais mieux. Je peux venir pour rire ou pour jouer à un jeu. Avec toi je me sens fille, je crois bien que je suis amoureux.
Alors,
Alors vous avez peut-être connu, il s'agit de la chanson qu'on a écoutée en premier, la chanson qu'il a fait connaître, mais cette fois en version longue. Une vidéo se retrouve à côté de celle d'Angèle, de Georgia Smith ou encore de Billie Eilish qui vient de remporter le Grammy Award de la chanson de l'année aux États-Unis tout de même. Faire cette Colors pour Ariane Bonzini, c'est un peu se faire tamponner la mention cool sur le front, comme quoi le summum du cool, c'est vraiment de se montrer tel qu'on est et d'aimer ce que l'on fait.
Moi j'ai besoin de toi, mais toi tu réponds pas. Peut-être c'est pas la peine de se faire autant de mal. Des fois je me sens seule, même si je suis avec toi. Alors que toi tu
peux. On est plus tout seul, Ariane Bonzini, vu qu'il y a quand même du monde qui l'écoute. Là, il y avait déjà des milliers de vues. Je suis allée regarder sur la vidéo publiée hier soir sur YouTube.
En tout cas, c'est parfait à 5h58 comme ambiance. Bon, d'ailleurs, moi, Bonzini, jusqu'à maintenant, c'était une marque de baby-foot. Mais comme quoi, une belle découverte ce matin. Allez, vous disiez que c'était cotonneux, oui, nuageux. Bah, on va jeter un coup d'œil à la météo.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux, rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Alors Christine Peña, moins agréable, hein. Pluie et neige en montagne.
Mais oui, les cotons là, ils sont partout en France, effectivement. Alors ils sont plutôt gris, un peu sales on va dire, et puis ils donnent de la pluie encore, pas mal de pluie sur le pays encore ce matin. Elles s'étirent de l'est au nord en passant par Paris. Elles vont doucement s'évacuer par les frontières du nord en direction de la Belgique, de l'Allemagne. Elles vont quand même un peu faire du surplace, hein, surtout au nord de la Seine. Ailleurs, nous aurons un régime d'averse avec quelques éclaircies, mais toujours des averses qui vont s'espacer. La neige tombe sur les massifs les plus à l'est, hein, Alpes, Jura et Vosges, surtout ce matin. Et on a pas mal de vents de sud qui soufflent, notamment sur la région Rhône-Alpes ou encore la Franche-Comté. Alors, peu à peu, je vous le dis, ça s'arrange, surtout dans le sud. Hein, ça sera un peu plus agréable avec ce soleil dès ce matin qui s'impose sur le sud-ouest, où le temps est beaucoup plus sec qu'ailleurs. Et ce soleil gagnera du terrain sur l'Auvergne, sur la Méditerranée, les Alpes également. Au niveau des températures, on est un petit peu comme hier. Cet après-midi, on ira jusqu'à 9 à Lille, à Reims et Abbeville. 11 degrés à Paris, 13 à Montélimar et à Nice, jusqu'à 16 en Corse.
Merci Christine Peña, allez très vite. On est en retard, on file un mauvais coton. C'est l'heure de retrouver Jérôme Chapuis. Ça. Bonjour Jérôme.
Mais non, même pas, vous êtes pile à l'heure. Comme très souvent, vrai. Merci
c'était,
William
c'était pour
Gacosta.
Le bon mot, c'est pour la
oui,
blague.
Bien
exactement,
bien sûr,
pour un bon mot. Hein.
Bien sûr,
André Perret-Mère.
Voilà, c'est ça.
Ah, mais d'accord.